Monde, l'une des huit filles de Louis XV. Pour ma part, je retrouve ce studio et vous-même demain à partir de 7h et jusqu'à 9h. Ne loupez pas, évidemment, la matinale de Stéphane Pedrazzi pour l'économie à partir de 6h. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute de nos programmes, il est 9h. Les informations, Marc Tédé.
Michel Barnier, Premier ministre en sursis, s'exprime ce soir à la télévision, invité des journaux télévisés de TF1 et France 2, alors que son gouvernement doit faire face demain ou jeudi à deux motions de censure que le RN et le NFP voteront. La séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale s'annonce tendue. Avec cette motion de censure, c'est le pays qu'on met en danger, s'inquiète ce matin le ministre de l'économie, Antoine Armand. Pas de cours dans les amphis des bibliothèques universitaires fermées ce mardi. Est une journée de mobilisation dans les universités françaises. Une journée organisée par les présidents d'établissements eux-mêmes pour alerter sur leurs grandes difficultés budgétaires. Ils regrettent l'absence de réponse concrète du gouvernement, malgré des alertes lancées dès le mois de septembre, disent-ils. À 4 jours de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le futur président américain Donald Trump annonce qu'il assistera à cette cérémonie, en compagnie d'ailleurs d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger de Donald Trump depuis sa réélection, avant son entrée en fonction en janvier. Lors de l'incendie en 2019, il avait suggéré aux autorités françaises d'envoyer des avions bombardiers d'eau pour venir à bout des flammes. À l'étranger, Israël et le Hezbollah libanais s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu conclu il y a une semaine exactement. Hier, 9 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le sud Liban. Des représailles, dit l'État hébreu. Le Hezbollah libanais affirme lui aussi que ses propres tirs vers le plateau du Golan étaient des réponses à des violations israéliennes du cessez-le-feu. Le Vendée Globe, un duo se détache en tête ce matin. Charlie Dalin mène toujours, mais Sébastien Simon s'est rapproché de lui à 18 000 nautiques désormais, alors que le troisième, Johan Richaume, a été distancé durant la nuit à plus de 205 000 nautiques du leader. On fait tout de suite un point sur la Bourse de Paris.
Suivez le point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Un point avec Marjorie Ancelot d'Investir. Bonjour Marjorie.
Bonjour Marc.
Quelle est la tendance ce matin ?
Eh bien, le CAC 40 vient d'ouvrir sur une note stable, plus 0,06% à 7240 points. C'est aussi comme ça qu'il a clôturé hier, stable, après 6 semaines de baisse d'affilée. C'est compliqué à la Bourse de Paris, alors que plus largement en Europe, certes, ça n'est pas facile non plus, mais l'indice Stoxx 600 des grandes valeurs européennes a réussi à progresser hier, tandis qu'à Wall Street, le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets. Mais ici, la crise politique continue de peser sur les actions et le marché de la dette. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne sur les échéances d'emprunt à 10 ans restent sur des plus hauts depuis 2012, depuis la crise de la dette, c'est-à-dire là où ils sont montés la semaine dernière à l'approche du vote du budget, autour de 0,9 points de pourcentage. Là, tout de suite, le taux de la France à 10 ans sur le marché secondaire de la dette est de 2,91%. Il n'est que de 2,04%. Pour l'Allemagne, cet écart mesure la prime de risque parce que les taux d'intérêt rémunèrent le risque. Le gouvernement Barnier pourrait tomber demain. Le Rassemblement national a annoncé qu'il soutiendrait une motion de censure contre le gouvernement. Motion de censure soutenue également par les partis de gauche. En attendant, je rappelle que le CAC 40 vient d'ouvrir sur une note stable.
Merci Marjorie Ancelot d'Investir. 9h, bientôt 4 sur Radio Classique. C'est le moment de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Marc. Il y a quelques temps, j'avais l'intention de faire une semaine spéciale sur les filles de Louis XV. Puis on m'a dit, tu crois que tu vas pouvoir tenir une semaine entière avec Madame Première, Madame Seconde, Madame Troisième, Madame Quatrième. Bon, bref, j'ai décidé ce matin de vous parler de Madame Henriette.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Été 1727, on se réjouit à Versailles parce que la reine Marie Leszczyńska, qui a 24 ans, la reine qui est mariée depuis 2 ans au roi Louis XV, est enfin enceinte. Et non seulement elle est enceinte, mais elle est en train de mener à terme cette grossesse. On commençait à s'impatienter. Il faut vous dire que le petit roi, lui, n'a que 17 ans à l'époque. Mais il s'est marié à cette femme plus âgée que lui pour avoir des héritiers, bien sûr. Et on se disait, mais est-ce qu'en plus de son rang médiocre, cette femme a fait venir à la cour Tour de France, la stérilité. Non, non. Le ventre de la reine n'en finit plus de s'arrondir. La délivrance est attendue pour septembre. Aïe, aïe, aïe. Le 13 août, Marie se sent mal. Déjà, elle est prise de vomissements. Elle s'évanouit. Les médecins sont là qui s'activent autour d'elle. Vous imaginez ce que c'est que les médecins de l'époque autour d'une reine de France, hein. Alors, on dit, mais c'est une indigestion. On dit qu'elle aurait abusé de figues et de melons à la glace. Bref. À Versailles, on s'alarme. On parle déjà de fausses couches. La faculté, avec son air habituel, a la bonne idée de pratiquer deux saignées sur l'un des bras de la reine, des bras diaphanes de la pauvre reine d'origine polonaise. Vous avez cette Marie Leszczynska qui se laisse faire, que voulez-vous qu'elle fasse? Quant au roi, dès qu'il apprend ce qui se passe, il se précipite au chevet de sa femme. Il faut imaginer ce jeune homme qui est encore quasiment un adolescent avec son visage ému. Je cite le Mercure de France. Alors là, c'est très officiel, hein. Il arriva à Versailles à 11h30. Sa Majesté resta dans l'appartement de la reine jusqu'à 2h après-midi, quelque instance qu'on lui fit pour l'obliger d'aller se reposer. À 3h du matin, la reine sentit les premières douleurs pour accoucher et elle fut saignée une heure après. Les douleurs étant devenues plus vives et plus fréquentes vers les 7h, on alla éveiller le roi ainsi qu'il l'avait ordonné. Sa Majesté se leva promptement et passa en robe de chambre chez la reine. Il ne la quitta point pendant les douleurs. Et à 10h, nouvelle saignée de la faculté, on pense que c'est nécessaire à l'époque, et puis, ça y est. Une petite princesse voit le jour. Ah, on aurait préféré un petit prince. Attendez, attendez, ce n'est pas fini. Voici qu'une deuxième petite tête fait son apparition. Et en effet, incroyable mais vrai, le roi Louis XV, encore adolescent, est désormais le repère non pas d'une fille, mais de deux. Oh, il peut bomber le torse. On avait prétendu que je n'étais pas capable d'avoir un enfant. Eh bien, j'ai fait coup double, dit-il.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà donc que commence l'existence de ce duo, si je puis dire, pour parler de ces sœurs jumelles. Alors celle dont on va suivre la destinée aujourd'hui, c'est Henriette, qu'on appelle tout de suite Madame Seconde, alors que sa grande sœur, c'est Madame Élisabeth, qui devient donc Madame Première. On ne donnera d'ailleurs de prénom aux deux petites jumelles qu'un tout petit peu plus tard. Comme le roi l'a souhaité, elles sont sur le champ, confié à celle qui l'avait élevé lui-même dans sa petite enfance, la très respectable et très aimante Madame de Ventadour. Elle a joué un rôle absolument essentiel dans l'histoire de France, Madame de Ventadour, parce que si elle n'avait pas mis le petit roi Louis XV, enfin qui à l'époque était le dauphin de France, sous clé dans ses appartements, il aurait été tué par les médecins comme l'ont été ses parents et ses frères en 1712. Bref, je ferme cette parenthèse. Henriette, tout comme sa sœur, dès les premiers jours, a autour d'elle toute une maison. Hein, faut imaginer une armada de serviteurs qui sont là pour veiller aux moindres détails de leur vie, bien sûr. C'est le cas des enfants de France, que voulez-vous. Nous sommes dans la plus grande cour du monde à l'époque. Et quand je dis les enfants de France, il va y en avoir pas mal, hein, puisque la reine Marie, qui donc n'est pas du tout stérile, va avoir une autre fille en 1728, puis, oh joie pour les défenseurs de la dynastie, un petit garçon, le dauphin, en 1729, un autre garçon en 1730, et puis cinq filles qui vont s'échelonner de 1732 à 1737. La famille royale n'est pas une petite famille, ce qui veut dire que Henriette va être entourée d'autres enfants. Vous aurez bien compris que ce sont surtout des filles, hein, bien sûr. Louis XV et Marie Leszczynska ont eu surtout des filles. Elle est charmante, cette petite Henriette, avec ses cheveux châtains et ses jolis yeux sombres. Elle est extrêmement attachée à sa jumelle, comme c'est souvent le cas, hein, à Madame Élisabeth. Faut les imaginer qui jouent constamment ensemble, entre éclats de rire et petites chamailleries enfantines. La cour a beau jeu de commenter leur progrès à mesure qu'elles passent par tous les apprentissages de l'enfance, mais élever toute cette fratrie avec l'apparat et le soin qui s'impose prend évidemment beaucoup de temps, d'énergie et d'espace, hein, et d'argent. Ça coûte très cher tout ça. Et le vieux cardinal de Fleury, qui à l'époque est Premier ministre et qui est soucieux du budget de l'État, se dit qu'on pourrait peut-être trouver une solution. En 1738, il va persuader le roi d'envoyer ses filles les plus jeunes le plus loin possible de la cour pour qu'elles s'en aillent grandir au bon air du Val-de-Loire dans la vénérable abbaye de Fontevraud. Henriette fait pas partie des plus jeunes, vous l'avez bien compris, bien sûr, elle est une des deux aînées. Elle a 10 ans à l'époque et pour elle, il est déjà temps de parfaire son éducation à la cour. Faut la préparer à son mariage qui pourrait se décider assez vite. Donc, Elle va rester, elle, à la cour. Les autres devaient partir pour Fontevraud, sauf que l'aînée des plus jeunes, qui s'appelle Madame Adélaïde, va faire une crise de nerfs, de larmes, elle tape des pieds, elle se jette dans les jupes de sa mère. Bref, on n'a pas le cœur de la laisser monter dans les carrosses, donc elle va, elle aussi, rester à Versailles. Entre parenthèses, ça valait le coup de faire une grosse colère. Bref, pour les autres, pas de discussion possible, et donc Henriette va vivre ce qui est une véritable déchirure familiale en 1738, puisque quatre de ses sœurs, les plus jeunes, sont donc parties pour Fontevraud. C'est une séparation, mais j'ai envie de dire, ce n'est que la première d'une vie qui va être marquée par les séparations. Un extrait de la sonate en symphonie numéro 4 de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville par les musiciens du Louvre Grenoble sous la direction de Marc Minkowski.
Vous écoutez Radio Classique.
Oh, la grande question pour toutes ces filles de Louis XV et notamment pour les deux aînées, bien sûr, c'est de savoir quels époux on va leur choisir. Elles sont filles de France, c'est-à-dire des princesses extrêmement importantes en Europe. Autant dire que le choix est très limité. L'idéal, ce serait de les marier à un fils aîné d'une puissante dynastie catholique. D'ailleurs, il y a des prétendants plus ou moins convenables qui sont évoqués pour Henriette. Elle a 10 ans seulement, hein, mais c'est comme ça à l'époque. Il y a deux noms qu'on cite le plus souvent. Le fils du roi de Sardaigne. Et puis le duc de Chartres. Alors le duc de Chartres, il est de la branche, il est de la famille royale, hein, il est de la branche des Orléans. Disons les choses, on n'est pour l'instant que dans les hypothèses de mariage. En fait, c'est pour Madame Élisabeth que les choses avancent surtout. Après tout, Madame Première jouit de la préséance, n'est-ce pas ? Dès 1738, on décide de la marier à l'infant d'Espagne, Philippe, qui est le fils cadet de Philippe V. À vrai dire, certains font la moue devant ce mariage, un simple cadet pour l'aîné des filles de Louis XV. Non, quand même, c'est pas tout à fait présentable. Pas de quoi arrêter le projet. Henriette, pendant l'été 1739, doit se préparer à quitter la France pour sa nouvelle cour, pour sa nouvelle famille. Et il va surtout falloir qu'elle se sépare de sa chère jumelle, qui n'a que 12 ans. Pour elles qui ont toujours été inséparables, vous imaginez le drame intime que ça peut représenter. Les semaines sont comptées, puis les jours, et puis les heures, et Henriette doit accepter que sa sœur, qu'on appelle maintenant Madame Infante, s'en aille. Le duc de Luynes, qui est le chroniqueur de la cour de Louis XV, nous raconte ses adieux familiaux. « Le roi est devenu pâle quand Madame Infante est entrée dans son cabinet. Il y a eu encore beaucoup de pleurs. Les deux sœurs se sont embrassées en fondant en larmes et ne pouvant se quitter. Elle disait « C'est pour jamais !» En toute logique, Henriette devrait être maintenant la prochaine sur la liste, si je puis dire, à marier. D'ailleurs, il a l'air assez clair qu'elle n'est pas indifférente au charme du duc de Chartres, dont je vous parlais. Les deux adolescents se côtoient depuis toujours, évidemment, ils sont cousins. Le prince est lui-même très intéressé par sa cousine, et pour lui, épouser la fille du roi, vous imaginez, ce serait un mariage inespéré. Et puis, les qualités d'Henriette ne se résument pas à sa naissance, puisque c'est une jeune fille extrêmement gentille, d'une grande finesse psychologique. Elle a l'art de toujours faire plaisir, elle se plie en quatre, si je puis dire. Louis XV, qui aime infiniment sa fille, il aime toutes ses filles. Pour tout vous dire, c'est un père exemplaire, le roi Louis XV. Est-ce qu'il peut accepter qu'une petite Bourbon de la branche la plus aînée qui puisse être épouse un prince de la branche cadette, un Orléans? Le duc de Chartres veut y croire et au bout d'un moment, il aurait pris son courage à deux mains pour aller carrément en parler au roi au moment d'une chasse. C'est le duc d'Argenson qui nous relate ça dans son journal. « Sire, lui dit-il bien bas, de cheval à cheval, J'avais une grande espérance, c'était de trouver en votre majesté un père aussi bien qu'un maître. Je contribuais au malheur de madame Henriette qui serait restée en France avec sa majesté, m'est-il permis encore d'espérer ? Sur cela, le roi se pencha sur ce jeune prince et lui serra la main tristement par deux fois, ce qui voulait dire un refus net. Alors il y aura encore d'autres tentatives, mais finalement le mariage ne se fait pas. Et en 1743, ce qui veut dire que maintenant Henriette a 16 ans, elle va devoir faire bonne figure en voyant le duc de Chartres épouser une autre cousine, princesse de la branche des Conti cette fois, concurrente qui aura eu l'avantage paradoxal d'être d'une moins haute naissance tout simplement. Et comme le relève Jean-Christian Petit-Fils, qui est le biographe de Louis XV, Henriette aurait eu ces mots affligés au duc de Chartres. « Soyez heureux, votre bonheur me donnera la force de vivre. » Donc vous voyez qu'il y avait plus que ce qu'on pourrait croire entre ces deux-là. C'est un échec, évidemment. On envisage d'autres unions pour Henriette, mais il n'y en a aucune qui aboutit. Et finalement, on commence à se dire que la princesse pourrait rester célibataire. Peut-être qu'elle se satisfait de pouvoir rester de cette manière à la cour de France, parce que quand vous mariez, vous quittez la cour, évidemment. Dans son travail sur les filles de Louis XV, Cécile Armand note à quel point cette attitude est diversement appréciée, pour parler diplomatiquement. « Si, pour certains, un tel attachement à sa famille était louable, dit-elle, Michelet ridiculise ce choix, disant de Madame Henriette que, comme les chiens battus qui d'autant plus s'attachent, elle se donna tout à son père. » C'est vrai que c'est peut-être pénétrant sur un plan psychologique, mais c'est vraiment pas gentil. Ce qui est sûr, c'est qu'Henriette, c'est vrai, entretient avec le roi un lien très privilégié. Elle sait d'ailleurs utiliser cette position. Elle a une place prééminente dans les cérémonies monarchiques. Elle acquiert surtout dans la famille une grande influence. Quand arrive en France sa belle-sœur, la seconde épouse du jeune dauphin Marie-Joseph de Saxe, on est là en 1747, c'est difficile pour la nouvelle venue, vous imaginez, fille d'un vieil ennemi de la famille de la reine, et pour cause, elle est Saxe, n'est-ce pas? Et puis par ailleurs, le dauphin n'a pas très envie d'elle, il a tendance à la rejeter, et c'est Henriette qui va montrer, une fois de plus, ses grandes qualités de douceur, d'accueil. Elle se montre ostensiblement très gentille avec Marie-Joseph. Elle plaide sa cause auprès de son frère le dauphin. Elle contribue à un accommodement, si je puis dire. Il y a comme ça des personnages qui sont très discrets, mais qui, en coulisses et grâce à leur délicatesse, peuvent se révéler néanmoins très utiles. Vous avez reconnu la poule de Rameau interprétée au clavecin par Céline Frisch.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Pleine de retenue, de gentillesse, de piété. On la compare à sa mère, hein, la bonne reine Marie, bien sûr. On la trouve peut-être un petit peu lisse, un petit peu terne aussi. Enfin, ça, ce sont les méchants, bien sûr. Le duc de Luynes dit qu'elle est d'un caractère doux, sans humeur et même sans volonté. C'est pas gentil. Les auteurs contemporains eurent peu de mots pour la décrire, nous dit Cécile Armand dans ce fameux travail sur elle. Elle était peut-être un peu trop parfaite à leur goût pour qu'on s'étende sur sa description trop longtemps. Elle resta pour eux une princesse fort aimable. Ce sérieux, finalement, fit peut-être qu'on apprécia plus Madame Henriette qu'on ne l'aima par instinct. Mais on ne peut pas reprocher cela à une princesse royale, au contraire. D'ailleurs, ce sérieux sut aussi lui attirer quelques sympathies, et non des moindres. Louis XV lui donne infiniment de preuves d'affection et même de considération. Elle ne déplaît jamais, Madame Henriette. Tout de même, ça peut arriver, et c'est le cas, quand pieusement elle se joint à son frère et ses sœurs pour mener la vie dure à la favorite en titre du roi, à Madame de Pompadour. Ah, alors là, celle-là, elle ne l'aime pas du tout. Et le roi va être obligé de lui laver la tête, comme on disait à l'époque, hein, de la savonner bien vertement pour qu'elle se montre un peu moins hostile envers la favorite. Mais la vie de la famille royale, en dehors de cette question sensible, est placée sous le signe de la tendresse. Et dans cette tendresse, on peut dire d'Henriette qu'elle tient pleinement sa part. Et puis il y a, en 1748, ce moment extraordinaire, on annonce à la cour de Versailles la visite d'Élisabeth. Oui, Madame Infante a le droit de revenir. Alors là, ce sont des effusions à n'en plus finir. D'ailleurs, elle ne veut plus repartir. Elle joue les prolongations. Elle finira par partir seulement à l'automne 1749, et ça, c'est l'occasion d'une nouvelle séparation et de nouveaux pleurs.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Début février 1752, on parle du décès du duc d'Orléans, le nouveau duc d'Orléans, c'est-à-dire l'ancien duc de Chartres auquel avait dû renoncer Henriette. La princesse a 24 ans et justement, elle est tombée malade, elle a de la fièvre, elle tousse pas mal, elle a toujours un peu mal à la tête. On se dit que elle aimait tellement le duc d'Orléans que ça peut se comprendre. Seulement, voilà, elle n'a pas l'air de vouloir se remettre. Les symptômes s'intensifient. Le 8 février, elle est prise de convulsions brutales. Le roi est de plus en plus inquiet. Il doit annuler un déplacement. Et le lendemain, la princesse demande carrément à se confesser. Alors quand même, on n'ose pas lui donner encore l'extrême onction. Est-ce qu'il serait possible que cette belle, cette bonne âme soit déjà rappelée à Dieu alors qu'elle est à peine adulte? Le 10 février, on lui donne l'extrême onction. On vient réveiller le roi pour lui dire qu'Henriette est au plus mal. L'une de ses sœurs, Madame Louise, en comprenant ce qui se passe, éclate en sanglots. Elle dit « Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé à Fontevraud? Je ne l'aurais jamais connue. » Eh oui, elle aurait moins souffert si elle n'avait pas connu cette tendre sœur. Et c'est la mort de Madame Henriette. Un coup terrible pour la famille royale, des pleurs, des déchirements extraordinaires. À quelque temps de là, le grand peintre Nattier va achever, à titre posthume, un portrait de la défunte. Et il peint Henriette dans une superbe robe rouge et or, avec un archet dans la main droite, en train de jouer de la basse de viol. De quoi permettre à ses proches de regarder une dernière fois cette princesse qui, pour l'éternité, sera musicienne. Madame Henriette va rester cette présence discrète dont la vocation au sein de la famille royale aura été de chercher toujours la note la plus juste, la note la plus douce.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel d'avoir fait cette évocation de la princesse oubliée. Et voici celui qu'on n'oublie pas, Christian Morin. Bonjour Christian.
Madame Henriette, je l'avais complètement oubliée.
Oui,
je
ne
sais même pas si elle a été évoquée un jour dans mes cours d'histoire.
Non, je ne pense pas.
Quel dommage. Alors en revanche, une chose que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler, c'est la fameuse révolution 1910 au Mexique.
Ah oui.
Assez sanglante.
On va mettre nos sombreros.
J'ai le mien, hein. À tout à l'heure, Franck, et très bonne journée.
Merci.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, Rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Chez Poltrone Sofa, les belles surprises ne se terminent jamais. Prolongation exceptionnelle de la remise de 30% sur tous les canapés qu'on présentait en magasin. N'est-ce pas magnifique? Et si les surprises ne se terminent jamais, la remise de 30% par contre se termine samedi. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà!
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Vitalie Tettinger, présidente du Champagne Tettinger.
Cultiver mieux, plus respectueusement, a toujours été une démarche naturelle chez Tettinger. C'est une joie de chercher, d'apprendre, découvrir ou redécouvrir des solutions responsables pour un champagne encore plus champagne.
L'instant Tettinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Allô ? Ouais, ça va, ça va. Sauf que je cherche un nouveau livreur. Je viens de mettre une offre sur Hello Work et... Oula, attends, je reçois plein de notifs, je te rappelle.
Avec Hello Work, recevez vos premières candidatures pertinentes très rapidement. Recrutez vite, recrutez bien sur jerecrute.hellowork.com.
Au cœur de Nîmes, le festival Les Volques, dédié à la musique de chambre, met en miroir un compositeur d'hier et d'aujourd'hui. Pour sa 5e édition, Les Volques se mettent à leur tchèque et explorent Dvorak et Andrzej Adamek avec le quatuor Diotima, Isabelle Druet, une carte blanche à Renaud Capuçon et Emmanuel Pahut. 8 concerts, 3 masterclass publiques, 4 concerts pour les enfants, des films et des rencontres. Le festival Les Volques, dans les lieux emblématiques de Nîmes, du 9 au 15 décembre.
Véronique Bougardier, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le cabinet Bougardier, le spécialiste du crédit hypothécaire. On parle beaucoup de nos jours de la fiducie sûreté. Alors de quoi s'agit-il ?
Imaginez, vous êtes propriétaire d'une chaîne d'hôtels que vous cherchez à développer. Mm-hmm. Grâce à la fiducie sûreté, en apportant vos parts sociales en garantie, vous pouvez obtenir un financement bancaire.
Alors pourquoi est-ce que c'est innovant ?
Parce que c'est un outil de garantie très sécurisant pour le prêteur et qui vous dispense d'ouvrir votre capital.
Et pour en savoir plus sur la fiducie sûreté, rendez-vous sur bougardier.fr. À très bientôt.
Aujourd'hui, de nombreuses communautés religieuses, catholiques, protestantes ou orthodoxes, faute de moyens suffisants, ne peuvent entretenir le patrimoine artistique ou culturel des monastères qui les abritent. En faisant un don à la Fondation des Monastères, vous pouvez contribuer, même modestement, à soutenir cette cause. Vous souhaitez nous aider ? Rejoignez-nous sur le site fondationdesmonastères.org. Par décret du 21 août 1974, la Fondation des Monastères est reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs d'avantages fiscaux.
On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et 4000 euros de bonus écologique avant le changement des conditions. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre. Voir service-public.fr et conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Ça, c'est Raymond qui a chopé un vilain virus juste avant l'anniversaire de son petit-fils. Ça, c'est Raymond qui a pris des antibiotiques pour guérir plus vite de ce vilain virus. Et ça, c'est Raymond qui, ne va pas guérir plus vite parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les vilains virus.
Ah ben c'est dommage.
Eh oui, Raymond. Mais vous fêterez ça la semaine prochaine. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Dans un instant, tous classiques avec Christian Morin.
Et voilà, papa a profité de l'offre de la deuxième paire offerte chez Atoll. Et il a décidé de l'offrir à...
La femme que je préfère dans tout l'univers.
Mais voilà, la femme que papa préfère dans tout l'univers, c'est...
Ta mère ? Non, tu les as offertes à ta mère ?
Ce n'est pas maman.
En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire offerte pour vous ou pour un proche chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique, pour la 7e fois consécutive. Atoll. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr.
midi, tous classiques, avec Christian Morin, sur Radio Classique.
Et ce mois de décembre, déjà débuté ce dimanche, eh bien nous sommes le mardi 3 décembre, en vous souhaitant une excellente matinée, après avoir écouté Franck Ferrand et toute la matinale de Radio Classique, aux côtés de David Abiker, eh bien nous allons nous voguer en musique. Alors, Francis Drezel a pensé qu'il était bon d'écouter quelques compositeurs qui se sont tournés vers le mois de décembre, notamment connaissez l'histoire, je crois, je vous l'ai raconté, les saisons de Tchaïkovski. Il a dessiné chaque mois. Il envoyait ça pour une commande d'un magazine musical russe, mais chaque musique, pour le mois, était accompagnée d'une épigraphe poétique en russe. Et pour le mois de décembre, eh bien, c'est le poète Vassili Joukovski qui a signé ce petit texte qui accompagne décembre, avant que vous n'en écoutiez la musique. La veille de Noël, des jeunes filles lisaient l'avenir, deux points. Elles retiraient leurs souliers et les jetaient dehors. Ça s'arrête là, heureusement.
Thank you.
La vision du mois de décembre, signée Tchaïkovski, Les Saisons, et interprétée par Nikolaï Luganski, on va voir comment Fanny Mendelssohn-Hensel considérait décembre. Écoutez cette interprétation de Lauma Skride. L'inspiration de Fanny Mendelssohn-Hensel sur le mois de décembre, elle le considère comme ça, avec ses notes à elle, jouées par Lauma Skride. La Lettonie nous a donné cette pianiste, elle est née le 20 mars 1982, mais il y a aussi sa sœur qui est violoniste, qui est née un an plus tôt, le 17 mars 1981. Écoutez-la interpréter ses souvenirs d'un lieu cher de Tchaïkovski. Thank you.
Thank you.
La mélodie et le scherzo de souvenir d'un lieu cher de Tchaïkovski, interprété by Basque Idée avec le symphonique de la ville de Birmingham dirigé par Andris Nelson. Ça nous fait du bien, cette musique, mais celle-ci aussi. Écoutez, Edouard Strauss qui a dessiné une fleur de givre, Polka Mazur S. Blum. C'est le Philharmonique de Vienne et c'est Andris Nelson qui dirige. C'était lors du Nouvel An 2020. Une fleur de givre, composition de Edouard Strauss, interprétée lors du 1er janvier 2020, nouvel an de Vienne, avec le Philharmonique de Vienne, et cette année-là, c'est Andris Nelsons qui dirigeait. Alors, on va faire quelques petites publicités, si vous le voulez bien. Je vous parlerai du rendez-vous avec Francis Drezel ce soir, et puis nous allons profiter, entre deux ou trois publicités, de nous glisser avec le trio classique.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles. Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et 4000 euros de bonus écologique avant le changement des conditions. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre. Voir service-public.fr et conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Génération Senior avec le laboratoire GSK. Le zona est peu connu des Français. Pour en savoir plus sur cette maladie qui peut être particulièrement douloureuse, rendez-vous dans un instant.
L'Opéra Royal de Versailles illumine vos fêtes de Noël avec la flûte enchantée de Mozart en français. Hervé Niquet dirige ici une version familiale chantée en français entre contes et fables initiatiques qui séduira petits et grands. Et le 31 décembre, assistez à un somptueux feu d'artifice depuis la Galerie des Glaces. La flûte enchantée, du 27 décembre au 1er janvier, un spectacle à ne pas manquer à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr.
Tous les pianos Yamaha, marque la plus jouée au monde, sont chez Nebout et Ham, l'adresse des beaux pianos à Paris. Piano droit, piano à queue ou numérique, piano silent ou hybride, nous proposons dans nos 4 magasins Nebout et Ham le plus grand choix de piano Yamaha au meilleur prix. Nebout et Ham, votre espace Yamaha Premium à Paris. Ouverture d'un nouveau magasin Nebout et Ham, rue Rondelet dans le 12e, métro Reuilly-Diderot. Nebout et Ham, la passion des beaux pianos.
Fabrice Sommier, vous êtes sommelier, meilleur ouvrier de France. Quel est le cadeau de Noël idéal pour un gourmet ?
Mon coup de cœur, ce sont les grands vins des domaines familiaux de Nicolas et Myrène de Lorgerie, en Languedoc. Depuis 30 ans, ils ont patiemment sélectionné les plus beaux terroirs d'altitude de leur région. Les vins sont gourmands, frais et élégants. Une magnifique émotion à chaque dégustation.
Les domaines de la famille de Lorgerie, l'élégance en Languedoc. Chez votre caviste et sur lorgerie.wine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur Philharmonie de Paris.
La nuit, source d'inspiration de Fauré et Chimanowski. La nuit se dévoile sous l'archet intense d'Eva Zavaro et le toucher profond de Clément Lefebvre dans leur album Notturno. Eva Zavaro et Clément Lefebvre interpréteront les sonates pour violon et piano de Fauré et Chimanowski, salle Corto à Paris, mercredi 4 décembre à 20h. Réservation sur sallecorto.com. Un événement, la Dolce Volta.
Trio classique.
Parmi ces trois extraits, est-ce qu'il y a la musique de Tchaïkovski, de Bizet, de Bach ou encore de Johann Strauss ou Mahler? À gagner cette semaine, je vous le rappelle, un abonnement au magazine Notre Temps, une nouvelle formule, hein, deux hors-série Historia sur Gengis Khan et Aliénor d'Aquitaine, deux civilisations complètement opposées, un dictionnaire amoureux de l'aventure par Olivier Weber, chez Plon également le dernier livre de Guillaume Durand, Bande à part, et puis un livre consacré par Stéphane Deschamps chez Grund à Françoise Hardy. Très très beau livre avec des photos et des textes magnifiques. Et puis un CD qui concerne la musique de Catherine Stott et de Yo-Yo Ma chez Sony. Radioclassique.fr, bonne chance.
Trio Classique.
Grâce à vous, la Fondation du Patrimoine sauve nos châteaux en péril. Mais aussi nos églises, nos petites chapelles. Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins, pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du Patrimoine, donnons un avenir à notre passé.
L'indicatif de Francis Drezel qui, ce soir, consacrera son disco-portrait à la violoncelliste Jacqueline Dupré que nous écoutions hier dans le programme de Tous Classiques. Écoutez quelques notes de cette rota d'Emmanuel de Falla jouée par Jacqueline Dupré, justement. Celle de Jacqueline Dupré que vous entendrez ce soir dès 23h et jusqu'à minuit avec Francis Drezel.
On peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme pour toute commande du 4 au 9 décembre. Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participant du 4 au 9 décembre. Si accordiaque, voir Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Merci d'écouter Radio Classique. Il est 10h. Un point d'information, c'est Marc Tédé que vous retrouvez. Bonjour Marc.
Bonjour Christian, bonjour à tous. Avec ces motions, ce n'est pas le gouvernement ou le budget qu'on censure, mais le pays qu'on abîme et que l'on met en danger. Mise en garde ce matin du ministre de l'économie Antoine Armand, les motions de censure qui seront soumises au vote des députés demain ou jeudi. En attendant, le Premier ministre Michel Barnier s'adresse aux Français.